Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue à cette édition. Procès Thomas Sankara. La famille de Sankara souhaite recevoir la symbolique somme de 1 franc CFA pour un préjudice moral. Opération temps lit 3, une centaine de présumés terroristes neutralisés et une quarantaine de présumés terroristes interpellés. Inondation à la mine de Perkoa, toujours pas de signe de vie des mineurs 11 jours après les inondations sur le site minier. Et puis tension diplomatique entre l'Allemagne et la Russie, Moscou annonce l'expulsion de 40 diplomates allemands en poste à Moscou en représailles à l'expulsion de ces diplomates. Bonjour et bienvenue à cette édition. L'audience du procès Thomas Sankara et 12 de ses compagnons a repris hier. Elle a porté sur les intérêts civils pour les préjudices subis. La famille de Thomas Sankara réclame une somme symbolique de 1 franc CFA et la restitution des biens matériels. L'agence judiciaire de l'État représentant la partie civile de l'État réclame pour sa part la somme de 1,145 milliard de francs CFA. De son côté, la défense des condamnés estime que les familles des victimes ont déjà reçu un dédommagement en 2002. Selon elle, il n'est plus question d'indemnisation, une requête que la partie civile juge inadmissible. Écoutez à ce propos Maître Prosper Farama, avocat de la partie civile. Il est au micro de Momoni Yaro.
Les familles ayant droit du président Sankara ont sollicité que l'État et les accusés soient condamnés juste à 1 franc symbolique. Et puis les avocats nationaux aussi ont estimé que n'était pas de bon aloi de réclamer non plus une quelconque somme d'argent à titre d'indemnisation pour leur action. Nous n'avons demandé que des honoraires pour nos confrères qui sont à l'étranger, qui ont dû occasionner des frais pour pouvoir assister à ce procès. Toutes les familles ne sont pas dans la même situation. Ceux dont peuvent profiter certains, d'autres n'ont pas eu ce bénéfice-là. Donc certaines familles ont souhaité être indemnisées pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Les familles qui ont obtenu des paiements dans le cadre de la journée du pardon se posent des problèmes de droit parce que l'État considère que c'est des indemnisations qui les empêchent de venir devant une juridiction. Il y a d'abord une première situation. Dans les familles, l'État nous produit des tableaux de sommes payées aux demandes de représentants de familles ou de membres de toute une famille. Alors que dans les faits, elle revient à prouver que tous les membres des familles ont reçu cet argent. Mais alors, si quelqu'un allait au nom d'une famille prendre de l'argent, ça ne peut pas être opposable à tous les membres de la famille. Et deuxièmement, au-delà de ces aspects pratiques, il y a l'aspect légal. L'argent du pardon, c'est l'argent du pardon. L'argent de l'indemnisation, c'est l'argent de l'indemnisation. Bon, donc, il faut laisser l'argent du pardon là où il est, pour ceux qui l'auraient reçu, et puis parler d'indemnisation liée à la faute. Si on nous apporte la preuve qu'il y a eu des paiements reçus par chaque membre des familles et que juridiquement, ça équivaut, comme ils disent, à une transaction, donc ils ne peuvent plus revendiquer, il n'y a pas de problème.
Maître Prosper Farama, avocat de la partie civile. La délibération du dossier des intérêts civils est prévue pour le 10 mai prochain. Et nous parlons d'un autre dossier qui attend que justice soit faite. Emmanuel Kaboui réclame en effet vérité et justice suite à la mort de son fils Lionel Kaboui. Le 6 juin 2020, Lionel Kaboui, 23 ans, trouvait la mort aux alentours de Ouagadougou devant un hôtel. Si c'est la mention mort des suites de maladie qui a été inscrite sur la constatation de décès, la famille Kaboui dit être persuadée que le fils a été assassiné par des gendarmes. La famille de la victime a réclamé lumière sur cette affaire lundi. Des précisions avec Pierre Badelot.
Cela fait presque 2 ans que la famille Kaboui pleure leur fils Lionel Kaboui. En rentrant chez lui en voiture le 6 juin 2020, Lionel Kaboui trouve la mort vers 4h du matin devant un hôtel dans le quartier Ouagadougou. Pour la famille Kaboui, leur fils qui venait juste de fêter son 23e anniversaire a été criblé de balles par des gendarmes de garde à l'hôtel ce jour-là. Ce qui explique leur colère, la mention mort des suites des maladies sur la constatation de décès. Une plainte est déposée 2 mois après contre les gendarmes. Mais jusque-là, aucune évolution et le père de Lionel dit être convaincu que certaines personnes cherchent à étouffer le dossier. Emmanuel Kaboui, père de Lionel Kaboui.
Pourquoi les 3 gendarmes qui étaient de faction devant l'hôtel n'ont pas porté secours à Lionel après son assassinat? On a tiré sur lui, le véhicule était garé, personne ne s'est approché pour lui apporter secours. Sur les gendarmes, le lendemain matin, ils sont venus faire disparaître les étuis de balles. Ils sont venus ramasser les étuis de balles là. Aussi, ils ont retiré la cassette vidéo à l'intérieur de l'hôtel. Pourquoi a-t-il la cassette vidéo? Pourquoi les gendarmes sont venus pendant que la police est venue faire le constat? Pourquoi la gendarmerie est venue dire à ces gendarmes, à ces policiers de se retirer parce que ce n'est pas leur domaine?
Cette tragédie trouble depuis lors la famille Kabouye. Elle demande à l'État burkinabé de faire lumière sur cette affaire. La famille entend se battre jusqu'à ce que vérité et justice soient rendues. Christian Barrault, cousin de Lionel Kabouye.
Mon oncle ne dort plus. Sa femme, ma tante, vous la voyez, elle est décomposée. S'il y a quelque chose qui se passe, c'est l'État burkinabé qui doit répondre à cela. Il y a des impacts de balles, il y a des douilles, il y a tout ce qu'il faut pour mener une enquête. Et ça ne peut pas. Ouais, 23 mois, c'est beaucoup. Vous allez attendre quand? Jusqu'à ce qu'il se décourage, mais non. Je le connais pour ça, il ne va jamais se décourager.
Depuis le dépôt de la plainte, la famille Kabouye dit avoir multiplié les tentatives pour comprendre les circonstances de la mort de Lionel Kabouye. Elle veut que justice soit rendue pour que les auteurs soient punis et que de tels crimes soient bannis du Burkina Faso.
Et nous parlons de lutte contre le terrorisme à présent. Une centaine de présumés terroristes ont été neutralisés et 40 suspects ont été interpellés lors de l'opération Tanli à 3, une opération menée entre les armées du Burkina Faso et celle du Niger. Entre le 2 avril dernier au 25 avril, c'était en présence des chefs d'état-major des deux armées. Et puis justement, parlant de lutte contre le terrorisme, les autorités burkinabè veulent renforcer la coopération avec le Mali. À cet effet, une délégation d'officiers burkinabè était vendredi à Bamako pour échanger avec le président de la transition malienne, Assimi Goïta. Des précisions avec Mariam Soma.
Une délégation d'officiers burkinabés était vendredi à Bamako pour échanger avec le président malien Assimi Goïta sur des sujets relatifs au renforcement de la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. Composé du commandant des opérations du théâtre national, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, du lieutenant-colonel Dabanaon, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et du chef d'escadron Serge Thierry Kendre Biogo, directeur de cabinet du président du Faso, ces trois officiers ont rappelé à la partie malienne qu'ils ont les mêmes soucis sécuritaires et un même ennemi commun. Nous devons donc rester solidaires pour relever les défis qui se posent à nos deux pays, a indiqué le chef d'escadron Serge Thierry Kendre Biogo. Le Burkina a par ailleurs fait savoir à son hôte malien son désir de poursuivre la coopération armée et intensifier les opérations sur le terrain. L'armée malienne montant en puissance, l'objectif ici est d'anticiper les attaques terroristes qui peuvent naître de la fuite des groupes armés du Mali vers le Burkina.
Ce 26 avril, cela fait un jour déjà qu'a eu lieu l'incident ayant occasionné le blocage des 8 mineurs dans la mine souterraine de Perkoam. Cette situation est vécue difficilement par les familles des victimes. Une équipe de Omega Media a effectué le déplacement dans la famille d'une des victimes. Témoignage de la famille de Charles Bama à suivre dans ce reportage signé Abdulaziz Oulabou et Sabouna Ouedraogo.
Nous sommes au quartier Burkina, dans le secteur 9 de la ville de Koudougou. C'est là que réside la famille Bama, dont le fils Charles Bama est retenu dans la mine souterraine avec 7 autres personnes. Ce lundi 25 avril marque le 10e jour du drame et le temps de survie de ces personnes, selon le ministère des Mines, est d'environ 2 semaines, si toutefois elles arrivaient à se réfugier dans les chambres spéciales. Est alors engagée une véritable course contre la montre pour les services de secours qui s'activent pour les retrouver vivants. Une situation visiblement difficile à supporter pour cette famille qui essaie tant bien que mal de garder l'espoir. Antoine Bama est le grand frère de Charles Bama.
Il faut dire que c'est pas du tout facile, hein, surtout tous les enfants, madame, presque tout le monde, les gens sont vraiment, tout le monde est vraiment touché. Hein. Voilà, tout le monde est touché. Et chaque jour, on est obligé d'appeler au niveau de la mine. On est même obligé de fois de se lever le matin, puisqu'il y a généralement une équipe qui bouge le matin pour aller sur la mine. Donc autour de 4h30, donc une fois on est obligé de se lever vers 4h30 également pour aller échanger avec eux également pour voir ce qui se passe réellement. Donc c'est vraiment, c'est pas facile quoi. Donc ça fait que des fois tu dors, tu te réveilles, 2h du matin, 3h du matin, tu ne peux même plus fermer l'œil.
Depuis lors, deux rencontres entre les parents des victimes et les premiers responsables de la mine ont été initiées. Et le souhait des proches de constater de visu les opérations sur le terrain sera rejeté par la mine pour des raisons dites de sécurité. Antoine Bama.
Quand ils avaient appelé avant-hier, bon, on a insisté vraiment que si on peut vraiment aller voir de visu et puis voir qu'est-ce qui se passe réellement, et avoir vraiment l'assurance que dans les heures à venir, là, notre frère pourra sortir.
La tristesse se lit sur le visage de Sylvie Baman, épouse de Charles Baman, signe évocateur d'une personne désemparée par la situation.
Je me dis le matin, il devrait descendre le soir. Le soir, j'ai attendu jusqu'à plus de 21 ans. Il n'y a pas de nouvelles d'avocat. Je suis partie, il garde son véhicule là pour demander. On dit, ah, premier car est venu, mais deuxième car n'est pas encore venu. 22h. Autour de 23h, là, j'ai commencé à avoir peur. J'ai appelé un de son collègue, ça a sonné, mais il m'a pas décroché. Donc, tout de 4h du matin, il devrait monter. Il m'a appelé 4h du matin. Il dit, ah, ton gars là n'est pas arrivé. Il dit qu'il y a eu. Et comme la pluie est venue, l'eau est rentrée dedans, c'est les anciens là qu'ils ont tenu là-bas pour arranger. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Jusqu'à dimanche encore, j'ai appelé un. Il dit mon mari ne descend pas. Il dit non, qui doit travailler matin, ils vont descendre ensemble le soir. Il dit il n'y a pas de problème. J'ai attendu surtout des 22h que j'ai eu information là que c'était mauvais.
Elle se dit prête à accomplir l'inimaginable s'il le faut pour sauver la vie de son mari. Sylvie Baman.
Si c'est pas passé, le frère a dit que de laisser, ils vont partir là. Même s'ils ne m'ont pas appelé là, moi j'allais partir à Pierre-Pandet. J'allais partir. C'est qui va se passer. Et puis j'ai parti à un sou, hein, pour vider l'eau là, pour faire sortir mon mari. Parce que c'est ce que je voulais faire. J'avais mes soeurs aussi qui vont me soutenir, on va partir ensemble.
Amis, voisins et connaissances sont également mobilisés pour leur apporter le réconfort nécessaire. Abdulaziz Oulabou, Koudougou pour Radio Omega.
Du changement à la direction de cabinet et au secrétariat général du ministère de l'économie et des finances, nommé il y a quelques jours le nouveau secrétaire général Nicolas Combiané et le tout nouveau directeur de cabinet Christophe Palinfo ont officiellement pris fonction hier. Ils ont été installés par le ministre de l'économie et des finances, Valérie Guéret et Cynthia Diakité pour plus de précisions.
Ils sont deux à avoir été installés dans leurs fonctions par le ministre de l'économie et des finances. Il s'agit du directeur de cabinet et du secrétaire général. Une occasion pour le nouveau directeur de cabinet de demander le soutien de ses collaborateurs dans l'atteinte de ses objectifs. Sieur Christophe Palinfo, directeur du cabinet entrant.
Les défis que nous devons relever avec monsieur le ministre de l'économie et des finances, la prospective, appellent à l'engagement et à la détermination de tous sans faille. Et j'en suis confiant. En tant que directeur de cabinet, je ne serai qu'un simple facilitateur pour la réalisation des activités relevant du cabinet. Je le ferai dans une démarche participative avec dévouement, humilité et loyauté.
Nicolas Kobeyane occupe pour sa part le poste de secrétaire général. Il remplace l'actuel ministre qui a été promu le 5 mars dernier. Il a salué le travail abattu par son prédécesseur tout en indiquant qu'il n'hésitera pas à le consulter.
Est admis que le ministère de l'économie, des finances et de la prospective est caractérisé par sa transversalité qui rend ses missions complexes, voire ardues. N'échappe pas à cette réalité la mission du secrétariat général, à savoir la coordination des acteurs de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les départements.
Nommé en conseil de ministre le 13 avril dernier, ces deux nouveaux agents du ministère ont la lourde tâche d'assurer leurs responsabilités dans un contexte économique difficile.
Hors de nos frontières, les États-Unis abritent ce mardi une rencontre de plus d'une quarantaine de pays. Objectif, générer des capacités supplémentaires pour les forces ukrainiennes, selon le secrétaire américain à la Défense. Ils peuvent gagner s'ils ont les bons équipements, le bon soutien, a affirmé le chef du Pentagone, organisateur de l'événement qui intervient après un déplacement à Kiev au cours duquel il a promis au président ukrainien un soutien supplémentaire dans la guerre face à la Russie. Pendant ce temps, la Russie justement annonce l'expulsion de 40 diplomates allemands en poste à Moscou, une mesure prise en représailles de dispositions similaires édictées par l'Allemagne il y a quelques jours. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères précise que sa décision répond à l'initiative du gouvernement allemand qui avait déclaré le 4 avril dernier des diplomates russes indésirables. Et c'est cette information qui nous referme cette édition à la réalisation Fidel Compaoré, à la présentation à Denis Zungrana. Merci à vous pour votre fidélité au programme de la Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.